France Info. 20h-21h, France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Alors eux, en matière d'actualité, et comme Joe Wilfried Tsonga, ils ont largement passé la deuxième semaine. Hein, et Les Informés de France Info reçoivent ce soir la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, c'est bien ça, Marie-Pierre de la Gontrie, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Jonathan Boucher-Petersen de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et Olivier Delagarde de France Info, bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous.
Alors au menu des informés de France Info ce soir, on parlera chômage, on parlera de Thomas Thévenoud, on parlera également de Ségolène Royal, mais juste avant, revenons sur cette information d'il y a un peu plus d'une heure maintenant, la démission de Sepp Blatter, président de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, pris dans un scandale de corruption et d'entente d'organisation donc de la Coupe du Monde. Coppola pourrait écrire une nouvelle fin du parrain, hein, moins sanglante. Mais c'est tout le foot qui est aujourd'hui victime, selon le président de l'Union des clubs professionnels de football, Jean-Pierre Louvel.
On pouvait s'attendre avant l'élection qu'ils prennent la décision de ne pas se présenter ou de reporter les élections compte tenu de la situation. Il ne l'a pas fait, il a été élu, il avait l'air d'être satisfait de son élection. Démissionner ou se retirer 4 jours après, c'est quand même compliqué et ça pose des problèmes quand même pour l'image du football d'une façon générale.
Voilà, Jean-Pierre Louvel. Alors est-ce que c'est vraiment tout le football qui a été gratiné par cette histoire, Olivier Delagarde ?
Écoutez, oui, évidemment, c'est une affaire très très embarrassante pour le football en général et pour la FIFA en particulier. Qu'est-ce que l'on peut dire, Jean-Mathieu, en toute honnêteté ? C'est que cette démission a tout de même surpris tout le monde, y compris nous autres journalistes. Alors on dira peut-être non, on s'y attendait, etc. C'est pas vrai. 3 jours après la réélection de Sepp Blatter,
c'était vendredi, en effet.
On pensait vraiment que ça allait être reparti pour un tour. Que s'est-il passé ? Pourquoi Sepp Blatter a-t-il démissionné ? Ben, écoutez, je pense qu'il y a une chose à dire, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il y a peut-être des informations qui sont en la possession de Sepp Blatter qui ne sont pas en la possession de nous autres journalistes. En tout cas, il y a effectivement quelque chose d'important qui s'est passé ce matin. C'est ces révélations de la presse anglaise sur ce versement de 10 millions de dollars au délégué américain par Jérôme Valk. Jérôme Valk, ce n'est pas n'importe qui, c'est le numéro 2 de la FIFA. C'était vraiment l'homme de confiance, l'homme liege de Sepp Blatter. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien quand même entre ces deux informations. Voilà ouais. ce qu'on peut dire.
Alors,
quoi, hein.
Justement, Marie-Claire de la Gontrie, quand on voit quand même toute cette histoire qui a passionné tout le monde, parce que ça va au-delà du football, est-ce que, à votre avis, on va tirer les leçons ? Est-ce que finalement, pour ce genre d'organisation, il faut de nouvelles règles également ?
Ce qui est toujours étonnant, c'est qu'effectivement, on ne s'attendait pas à cette annonce, mais on peut s'interroger sur les raisons qui font qu'il n'a pas fait ça il y a 4 jours.
Mmh. Ah oui.
Et donc c'est toujours très intéressant de voir quand quelqu'un est pris dans un scandale qui était quand même déjà énorme il y a 5 jours, donc quand les États-Unis commencent à... Voilà, et il pense tenir. Et au fond, c'est là qu'on peut faire le lien avec d'autres affaires.
Oui.
C'est-à-dire que le choc est violent, il y a un déni, il y a « je vais tenir, je vais résister, c'est un complot », enfin on peut avoir des tas de variantes. On tient, ça marche plus ou moins parce qu'évidemment il est assez habile, hein. Et puis la pression est trop forte parce que quand même la révélation de ce matin est énorme parce qu'on dit le numéro 2, enfin si on peut faire un virement de 10 millions de dollars sans que le président soit au courant, moi je veux bien être numéro 2 de la FIFA, mais enfin, je veux dire que il y a un problème.
Ouais.
Bon. Alors après, est-ce qu'on peut réformer? Vous savez, au fond j'essaye, même si j'y pense beaucoup en vous parlant, mais je vais essayer de ne pas le faire le parallèle de manière à voix haute. C'est toujours ce qu'on dit qu'on va réformer. C'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on dit, surtout que là, de ce que je comprends, je veux dire qu'il est en place depuis 17 ans.
98 maintenant.
Oui, ça fait même 40 ans qu'il est à la FIFA.
Donc pour réformer, réformer quoi ? Alors j'entends qu'on dit qu'il faut que les procédures soient différentes, etc. Parce que forcément, l'ensemble de son entourage... Je connais absolument rien au dossier, je connais pas grand-chose au foot, mais au fond, c'est toujours la même chose. Bon.
Oui.
Donc comment faire pour que cette structure qui est absolument...
très opaque.
Indispensable.
Oui.
Indispensable. On ne peut pas décider. Il y a plusieurs solutions dans ce cas de figure. Un, on liquide la structure. On dit c'est un réformable, etc. Ça me paraît, vous êtes plus spécialiste de foot que moi, ça ne me paraît pas envisageable. Donc ensuite, on réforme, on change le bonhomme. On voit bien que ça ne suffit pas. On change les hommes. Je pense pas que... Bon, donc on change les structures. Mmh. Très compliqué, mais évidemment, il faut le faire.
Alors justement, François Orcival, est-ce qu'il pouvait faire autrement quand on a vu justement Olivier de Lagarde parler de ce que la presse anglaise avait révélé? Même la presse anglaise, l'Angleterre menaçait de ne pas jouer la Coupe du Monde. Donc ça allait très loin quand même. Les pressions étaient très fortes sur
oui,
Sepp Blatter.
Mais je crois que les pressions politiques étaient déjà très très fortes la semaine dernière, avant même qu'il ne soit réélu. Je signale d'ailleurs en toute petite parenthèse que le président de la Fédération française a voté pour lui.
Pour lui, exactement.
Noël Le Graët qui est bien embarrassé
oui.
quand même.
Hein. Oui, quand même. Or, qu'est-ce qui a pu déclencher, en dehors de tout ce que vient de dire Marie-Pierre de la Gontrie, avec beaucoup de justesse, on ne peut pas discuter ça. C'est quoi ? C'est l'argent. C'est un immense scandale financier, et c'est l'argent qui l'a fait tomber. Les révélations sur l'argent, mais aussi, forcément, à un moment donné, ceux qui sont sensibles aux pressions politiques, si lui ne l'a pas été, ce sont les sponsors.
Voilà, les sponsors. Alors, comme on a parlé, par exemple, de Coca-Cola, de Visa, enfin, plein de choses.
Ils sont quand même en face du gouvernement des États-Unis, de la justice américaine, qui a un poids énorme.
Alors, ce qui a étonné tout le monde, Jonathan Boucher-Petersen, c'est qu'en effet, ça a pris des proportions diplomatiques. On a parlé de l'Angleterre, de Vladimir Poutine, lui-même, qui soutient Sepp Blatter. Ça va au-delà, vraiment, du football.
Oui, ça va au-delà. Après, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour le regretter publiquement. On voit d'ailleurs qu'un Noël Le Graët, peut-être qu'il est embêté. Là, fondamentalement, il prend la vague.
Oui.
Globalement, tout le monde va être sur une ligne de voilà, il a fait ce qu'il fallait, c'est une bonne chose. Après, on verra dans quelle mesure, sur le plan juridique, il sera poursuivi, dans quelle mesure il y aura un statu quo autour de voilà, je simplifie les choses, mais on me simplifie ma fin de vie. Non, fondamentalement, c'est un système. Ça va évidemment bien au-delà du personnage. Est-ce que c'était pas déjà un peu le cas avant? Je suis pas sûr que la FIFA ait forcément dégénéré avec Sepp Blatter. Est-ce qu'elle se régénérera sans lui? C'est tout aussi hypothétique. Non, voilà. Après, on va pas le regretter. Moi, je suis pas spécialiste des arcanes. Après, la dimension diplomatique, oui. L'attribution d'une Coupe du Monde, les enjeux
la reconnaissance de l'État palestinien, ça avait été une bombe. La FIFA, c'est un truc.
Mais la FIFA, c'est pas que Sepp Blatter. Donc voilà. C'est bien qu'il est.
La FIFA, c'est quand même Sepp Blatter.
On va les parer. On verra si ça change du tout au tout sans Sepp Blatter.
Oui, mais moi, je pense que le poisson pourri par la tête. Je pense qu'effectivement,
Racine était déjà bien attaqué, mais bon.
Non, mais ce qui a tout changé quand même, ce qui a tout changé depuis 40 ans, c'est les sommes en jeu. Le football, ça ne brassait pas autant d'argent que ça ne le brasse en.
Bien sûr, mais ça embrasse beaucoup aujourd'hui. À l'échelle des clubs aussi, et pas seulement à l'échelle des pays. Donc
moi, je suis plutôt optimiste en me disant, et effectivement, il y a quelqu'un, on commence déjà à en parler, quelqu'un comme Michel Platini va finalement être obligé d'être candidat.
Le problème, Olivier, parce qu'il va être obligé, mais pourquoi
il en rêve d'être candidat, il était candidat.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il en rêve, parce
qu'il a pas osé tuer Blatter, ça c'est sûr.
Il est très content. Pourquoi est-ce qu'il va être obligé? Parce que ce sera un symbole. Pourquoi? Parce que c'est un joueur. Et que c'est bien, finalement.
Non, ce sera très bien pour le symbole, après on verra
bien,
les actes. Hein,
c'est bien, c'est bien que symbole, ce soit que le football revienne finalement à un joueur.
Et l'UEFA, c'est aussi le football de l'argent.
Allez, il est 20h15, on va clore le débat FIFA, mais sûr qu'on en reparlera encore, hein, puisque rappelons, et si Marie-Pierre de la Gontrie, rappelons juste que Sepp Blatter, donc le prochain congrès de la FIFA, normalement, devra avoir lieu, il a dit un point très précis, entre novembre et février prochain. Donc voilà, donc c'est très précis, en tout cas. Allez, il est 20h15 sur France Info. Les titres, Marie-Gaëtan Comte.
Il vient de décrocher son ticket pour la demi-finale de Roland-Garros. Joe Wilfried Tsonga se qualifie héroïquement en battant le japonais Kei Nishikori 6-1, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Il affrontera Stan Wawrinka qui s'est qualifié tout à l'heure en éliminant son compatriote Roger Federer. Coup de théâtre dans le monde du football, Sepp Blatter annonce son départ de la présidence de la FIFA. Il annonce la tenue d'un congrès extraordinaire pour élire un nouveau président le plus vite possible entre novembre et février. Donc l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi sur le dialogue social. Le texte prévoit de fusionner toutes les instances qui représentent les personnels dans les entreprises de moins de 300 salariés. Tous les migrants évacués ce matin ont eu une proposition de relogement d'urgence. C'est ce qu'a indiqué le préfet de Paris après l'évacuation du campement de plus de 300 personnes sous le métro aérien boulevard de la Chapelle. Un attentat suicide à Maiduguri dans le nord-est du Nigeria. La bombe a explosé dans une allée très fréquentée d'un marché. Une cinquantaine de personnes sont mortes selon des témoins.
France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info avec ce soir la première vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Marie-Pierre de la Gontrie, Jonathan Boucher-Petersen de Libération, François Dorcival de Valeurs Actuelles et Olivier Delagarde de France Info. Je veux le bleu, je veux le vert, je veux le jaune, je veux le orange, je veux le rouge, je veux le bordeaux, je veux le gris, l'arc-en-ciel de la pollution. Ah bon, là, on essaye juste d'être citoyen et de s'investir dans la lutte pour le climat. Cette couleur pour cette pastille selon le degré de pollution de votre véhicule. Voici la nouvelle idée de Ségolène Royal pour lutter contre la pollution des particules fines dans les grandes agglomérations françaises. Ça vous rappelle quelque chose et vous avez raison. C'est une sorte de remake de la pastille verte mise en place en 98 par Dominique Voynet, alors ministre de l'Environnement. Ségolène Royal insiste sur le côté non punitif puisque ce sera sur la base du volontariat avec quelques avantages comme des places de stationnement ou circuler dans des zones donc de circulation restreinte. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité comme la sénatrice de Paris UDI Chantal Joanneau.
Si c'est purement volontaire je vois pas en quoi ça peut améliorer la qualité de l'air. La vraie solution à terme, c'est de prendre une politique qui est sur 10 ans, de supprimer tous les avantages fiscaux effectivement en faveur aujourd'hui du diesel. Vous savez que le diesel est beaucoup moins taxé que l'essence. Donc le faire sur 10 ans de manière progressive, mais pas comme ça, petit bout par petit bout. On a trop le sentiment que c'est des opérations de communication.
Voilà, Chantal Joanneau, sénatrice de Paris UDI. Jonathan Boucher-Petersen, coup de com' ou véritable envie de Ségolène Royal de faire avancer?
Non, moi je suis un peu d'accord avec les deux. Hein. C'est-à-dire, je vois pas comment on peut dire ça sert à rien. Enfin, fondamentalement, tout ce qui peut faire un peu de pédagogie, faire avancer les esprits, faire un peu de bonification pour ceux qui veulent bien se comporter, on va pas dire que c'est rien. Après, que ce soit de la com', j'allais dire, si on commence à faire le tri comme ça, on parle plus de grand-chose. Après, fondamentalement, dire que à côté de ça, il doit y avoir peut-être des mesures plus structurelles, effectivement, de plans avec de l'anticipation, avec de la puissance publique qui anticipe et qui aide, ça oui. Après, il y a des bonus déjà pour des voitures propres. Je lisais l'interview dans le Parisien de Ségolène Royal ce matin. Enfin, le dossier est assez pédago. Des choses existent, quoi. Mmh. Après, dire effectivement, ça coûte un peu plus cher. Il faut être accompagné. Il faut que des mensualisations pour les voitures, effectivement. Avoir une voiture pas trop polluante, je pense que l'obstacle du prix, même s'il reste une réalité aujourd'hui, ça va être de moins en moins le sujet. Mmh. Après, que effectivement, moi, marcher dans la rue ou faire du vélo ou simplement subir des diesels dégueulasses. Dans le centre de Paris, ceux qui défendent ça, on peut en discuter. Quoi.
Voilà, ou dans 34 villes également. Juste Marie-Pierre de la Gontrie, quand Ségolène Royal parle d'écologie non punitive, est-ce que finalement c'est possible de faire de l'écologie non punitive et d'avoir des résultats?
Oui, moi je pense que c'est possible et que d'ailleurs en une dizaine d'années, il y a une évolution considérable dans l'état d'esprit des Français sur cette question de l'écologie, de la pollution, de la question de santé publique posée. Et donc il y a une acceptation un peu plus grande, me semble-t-il. Moi je suis élue de Paris, je suis élue d'Île-de-France, j'étais très frappée de voir comment le jour de la circulation alternée, au final, les gens n'étaient pas aussi radicalement désagréables.
Mais quand Ségolène Royal le veut aussi, la circulation alternée.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Ah bah, moi, je
pense...
mais
c'est un autre aspect. Oui. Mais moi, je pense qu'il faudrait ce système de pastilles. Je ne sais pas si c'est de la com, si la com est réussie, parce que ça paraît compliqué, les gens ne vont peut-être pas tout de suite comprendre, etc. Mais je pense que dire qu'il y a un lien entre la pollution que vous provoquez et la possibilité que vous avez de vous déplacer, c'est juste. Mais accompagner, du coup, les propriétaires de véhicules, c'est une bonne chose aussi. Et j'en terminerai. Moi, je suis pour qu'on mette en place des zones à circulation restreinte lorsqu'il y a des pics de pollution en fonction de son accès au transport en commun. Moi, je pense que c'est ça la clé. C'est-à-dire que vous devez pouvoir avoir le droit d'utiliser votre voiture si vous êtes loin d'un mode de transport et vous devez ne pas avoir à utiliser votre voiture si vous êtes proche. En clair, un Parisien, excusez-moi, on a un réseau de transport absolument formidable, on n'a pas l'obligation. Et moduler comme ça, sur l'ensemble de l'Île-de-France, par exemple, la possibilité de rouler et donc de baisser la pollution de l'air.
Justement, Olivier de Lagarde, alors cette pastille, est-ce que ça...
Moi, je vais la défendre, oui, cette pastille, parce que je ne sais pas si c'est de la com, mais moi, je trouve qu'en tout cas, c'est de la pédagogie intéressante, intelligente. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va avoir un effet extrêmement positif, c'est que les Français vont enfin savoir si leur véhicule pollue ou non. Ça va commencer par là. Parce que vous savez si votre voiture vraiment, elle pollue. Alors, en général, on dit oui, mais le diesel, ça pue. Bon,
il paraît que
c'est pas aussi simple que ça. Les particules fines, ça dépend des diesels, ça dépend de tout. Aujourd'hui, on ne sait plus rien. Je ne sais pas si mon petit scooter pollue. On ne sait pas. Et en fait, on s'aperçoit que ça a un effet très incitatif. Regardez une autre mesure un peu comparable, dont on parle absolument pas, l'étiquetage sur l'électroménager. Vous savez que maintenant, vous allez acheter un frigo, il y a une belle étiquette pour vous indiquer si ça consomme beaucoup, peu ou pas du tout d'énergie. Et en fait, on s'aperçoit que ça a un effet très important pour les acheteurs qui font un effort.
Regarde, donc,
vous allez voir que d'ici quelques mois, il va y avoir des publicités avec « cette voiture bénéficie de la pastille verte ou jaune, je ne sais pas les couleurs ». Je pense que voilà quelque chose qui est intéressant. On ne tord pas le bras des gens, on n'est pas en train de jeter l'anathème sur ceux qui n'ont pas la bonne voiture.
François Lorcival.
Et puis quoi encore ? Vive la liberté. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas compliqué.
La liberté tousser,
moi, je porterai, et sur le pare-brise, et sur mon veston, le pins, ou la pastille jaune, en tout cas. Parce que je conduis une voiture diesel.
C'est quoi le jaune?
Le jaune, c'est pas terrible.
Voilà. Jaune. Parce que c'est pas dégueulasse du tout, le diesel. Les moteurs diesel n'ont pas cessé de faire des progrès. Et ceci, on le sait depuis un moment. Quant à la 2 chevaux que je conduis aussi,
donc vous êtes très polluant.
Elle a une pastille grise, c'est-à-dire...
Vous avez une 2 chevaux diesel, en plus.
Mais non, elle n'est pas diesel, elle est à essence. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas utiliser cette voiture-là. Enfin, ça, je dois dire qu'on est dans un monde où, alors, les libertés, on vous les casse tous les jours.
Parce que vous n'avez pas d'enfants en bas âge, ou vous n'êtes pas asthmatique, etc.
Mais bien entendu que j'ai des petits-enfants qui ont 5 ans, 6 ans et 4 ans.
Donc ça vous est indifférent qu'ils grandissent dans un milieu où l'air est aussi pollué.
Mais moi, j'ai grandi dans un milieu totalement pollué.
Bah oui,
et vous avez une mine
superbe. Bon. Et voilà, c'est bon. Allez, on va y revenir. De toute façon, il est 20h23 sur France Info. Les titres, Marie-Gaëtan Comte.
Tous les espoirs reposent désormais sur lui. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié héroïquement en battant le japonais Kei Nishikori tout à l'heure. Il affrontera en demi-finale de Roland-Garros Stan Wawrinka, qui s'est qualifié en éliminant son compatriote Roger Federer. C'est la surprise de la soirée. Elle nous vient de Suisse. Sepp Blatter, l'un des boulonnables présidents de la FIFA, vient d'annoncer qu'il allait démissionner de ses fonctions. Et ce, à peine 4 jours après sa réélection à la tête de l'instance qui gère le football dans le monde entier. L'institution est engluée dans un vaste scandale de corruption. Tous les migrants évacués ce matin ont eu une proposition de relogement d'urgence. C'est ce qu'a indiqué ce matin le préfet de Paris après l'évacuation du campement de plus de 300 personnes sous le métro aérien boulevard de la Chapelle. Une réunion demain à l'Élysée sur l'avenir du nucléaire en France. Elle se tiendra à l'issue du Conseil des ministres. Une réunion sur l'avenir du principal groupe du secteur Areva. Ses salariés se sont mobilisés ce matin contre le plan d'économie préparé par le géant nucléaire. Entre 3 et 4 000 suppressions de postes annoncées. En Chine, les sauveteurs livrent une course contre la montre sur le fleuve Yangtze pour tenter de secourir d'éventuels survivants du naufrage d'un navire de croisière. Plus de 400 personnes sur les 450 à bord ont disparu. Les sauveteurs tentent de retrouver des survivants prisonniers de l'épave.
France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet.
Les informés de France Info, donc on parle environnement et donc de ce plan de Ségolène Royal présenté, notamment avec ses 7 couleurs pour 7 pastilles selon le degré de pollution de votre véhicule. Alors forcément, on parle toujours de véhicules diesel aujourd'hui et les principales critiques sont, ce sont les gens les plus défavorisés qui ont des véhicules diesel parce qu'on les a incités à acheter des véhicules diesel il y a quelques années. Est-ce que de nouveau, il va falloir racheter une voiture électrique? De nouveau, il va falloir investir? Marie-Pierre Lagontrie, ça semble compliqué, non? Quand même si on les incite, c'est un coût.
Je pense que c'est bien pour ça, et Jonathan Boucher-Petersen le disait tout à l'heure, je pense que c'est pour ça qu'il y a un plan d'ensemble. Il y a une prime qui est proposée pour le rachat d'un véhicule de ce type, qui est quand même de 10 000 euros, ce qui est une somme importante, et que tout ça peut se mettre en place de manière progressive. Parce qu'on le sait effectivement, quand vous avez une vieille voiture qui en plus roule le diesel et que vous êtes obligé de la voir, les pastilles, c'est un petit peu difficile de les digérer, c'est le cas de le dire. Donc tout ça va se faire sur plusieurs années, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que moi je suis un petit peu choqué de ce que dit François Dorcival, indépendamment de son goût.
Je suis choqué qu'on soit plus dans le positionnement que dans la conviction, mais c'est un peu dommage.
Il n'est pas aussi méchant qu'il ne vient de venir en taxi hybride,
il ne vient pas qu'en 2 chevaux.
Je pense simplement que la question de la santé des enfants, des personnes âgées, des personnes asthmatiques, etc., et que ça entre dans l'esprit des gens. Donc, oui, il faut aider les gens en difficulté financière parce que c'est pas simple, on peut pas remplacer sa voiture, c'est évident. Oui, les primes qui sont proposées par le gouvernement sont conséquentes et ça va se faire avec un certain nombre d'années.
Vous pensez que les Français sont prêts aujourd'hui? C'est-à-dire que souvent on dit que les Français ont du mal avec l'environnement.
Je note quand même une évolution considérable sur cette question dans l'esprit des gens. Oui.
Notamment sur la pollution de l'air. Enfin, on voit, il y a beaucoup de maires qui se font l'écho, qui sont souvent interpellés dans les campagnes municipales. C'est beaucoup plus des sujets que... Après, ça peut être des sujets de polémique nationale sur quelle mesure, quel timing, quel égo entre Royal et Hidalgo. Ça, c'est autre chose, mais fondamentalement. Et d'ailleurs, c'est à l'échelle des mairies que ça se fait. Dans les grandes villes, ville. Et après, on critique souvent l'Europe en disant que l'Europe vient imposer des choses. Donc j'imagine que François d'Orcival reprendra ce credo. Mais fondamentalement, on est sous la menace d'une sanction en disant que oui. on a un taux de particules, et bien ces petites particules PM10 là, dans 10 zones, surtout urbaines, on l'imagine. Et on est au-dessus d'une norme qui, pour le coup, est peut-être une norme vertueuse. Donc dans ces cas-là, essayons de la respecter. Ouais. Et demain, dans Libé, on fait l'événement sur ce sujet-là pour aller un peu plus loin. Ouais. Et comme il y a des infos dans Libé, je vous en fais pas en avant-première.
Merci.
Il y a une association qui s'appelle Écologie sans frontières qui est à l'origine, qui est très impliquée
comme
dans cette initiative.
Le vent est sans frontières.
Voilà. Oui. Et je ne me lançais pas trop de perches parce que je vais être désagréable. Ils portent plainte contre 3 villes pour mise en danger de la vie d'autrui. Clairement, c'est un débat public. On peut essayer de le nourrir par des arguments ou par des positionnements.
Alors,
chacun son credo.
Ce qui est très marrant, c'est vrai que c'est devenu un sujet, quoi. Ça fait l'événement de Libération. Dans les années 70, l'air était beaucoup plus pollué qu'aujourd'hui à Paris. Et en 1890, il l'était encore plus. Alors c'est vrai que maintenant, c'est devenu une préoccupation. Depuis qu'on mesure la qualité de l'air, on en souffre finalement. Bon, c'est comme ça. C'est très bien de lutter contre la pollution. Ce qui est étonnant et ce qui est un peu schizophrénique quand même dans ce pays, c'est que, pas seulement le privé, mais l'État a soutenu une entreprise comme Peugeot pendant des années, depuis des décennies, qui a fait ses choux gras du diesel. On disait, allez-y, faites du diesel. Et puis qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une fiscalité spéciale pour pousser les gens acheter du diesel.
Il y a tellement de choses que nous disons. Mais d'abord, la différence entre l'agglomération et la campagne. Le traitement est absolument différent, bien sûr. Absolument différent. Les embouteillages en ville créent de la pollution, et la campagne est fluide.
Et vous avez dans des vallées en Savoie,
oui, des vallées encaissées, oui. Avec des autoroutes encaissées, on sait ça, avec tous les bouchons rouges, etc. Bon, très bien. Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, le moteur diesel ne cesse de faire du progrès parce que précisément on l'a stimulé.
Mais vous pouvez voir une pastille vert clair qui date de janvier 2011. Il y a peut-être une bonne nouvelle à lire entre les lignes.
Vous allez pouvoir acheter un diesel de bonne qualité.
À partir de janvier 2011, pastille vert clair.
C'est pas indiqué. Aucun véhicule diesel ne pourra obtenir la catégorie verte.
Allez, c'est là-dessus en tout cas ce questionnement pour terminer ce débat puisqu'on va revenir juste après ça.
Même quand il est clair.
Xavier, je voulais te parler d'un truc important.
Ouais.
J'ai fait un don de spermatozoïdes.
Ah bon?
Bah oui, tu vois, avec Nina, on s'est dit qu'on n'imaginerait pas la vie sans nos enfants. Alors, j'ai voulu offrir ce bonheur-là à des couples qui peuvent pas en avoir.
J'y avais jamais pensé. Et maintenant que tu m'en parles...
En France, les hommes entre 18 et 45 ans, ayant au moins un enfant, peuvent faire un don de spermatozoïdes pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est anonyme et gratuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dondespermatozoïdes.fr. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé. France Info.
20h30 sur France Info. Le journal Thomas Pontillon, bonsoir.
Bonsoir. 4 jours après son élection, Sepp Blatter démissionne de la présidence de la FIFA. Je n'ai plus le soutien de tout le monde du foot, dit-il, alors que son organisation est engluée dans plusieurs scandales de corruption présumés, notamment après de nouvelles accusations du New York Times aujourd'hui qui vise son bras droit, qui aurait versé un virement de 10 millions de dollars. Alors que penser de ce nouveau coup de théâtre ce soir? Écoutez l'analyse de Didier Roustan, journaliste à l'équipe 21.
Je pense qu'il est vraiment dos au mur et s'il démissionne, il n'a vraiment pas le choix. Alors ça veut dire que ou il possède d'autres informations et à partir du moment où son numéro 2 est mis en cause pour la fameuse histoire des 10 millions de dollars pour la CONCACAF, la présidence donc la Confédération Amérique Centrale Caraïbes, Amérique du Nord, ou alors il peut y avoir aussi une très forte pression. Vous savez que la FIFA n'a pas beaucoup de sponsors, mais des sponsors conséquents qui donnent beaucoup. Certains sont américains. Et il est clair qu'il peut avoir une forme de pression aussi, car les sponsors, même s'ils ne tombent pas des nues, je suppose, mais maintenant se retrouvent un petit peu en porte-à-faux. Et en termes d'image, c'est pas formidable.
C'est une décision difficile, courageuse, mais la bonne décision. Déclaration de Michel Platini, le président de l'UEFA, qui l'avait invité la semaine dernière déjà à démissionner. C'est une excellente nouvelle pour la fédération anglaise. Autre réaction, le parquet suisse dit que l'annonce de sa démission n'aura aucune incidence sur la procédure pénale en cours. Un nouveau congrès extraordinaire aura lieu en fin d'année ou début 2016 pour élire un nouveau président à la tête de la FIFA. Le prince Ali, seul concurrent lors du vote la semaine dernière, annonce déjà qu'il sera candidat aux nouvelles élections. L'autre titre de l'actualité ce soir, c'est un Français en demi-finale de Roland-Garros. Joe Wilfried Tsonga s'est imposé en 5-7 face au Japonais Nishikori. Il retrouvera le Suisse Stan Wawrinka qui s'est imposé face à Roger Federer aujourd'hui. Ils font rarement grève, mais les salariés d'Areva se sont mobilisés ce matin. Ils ont fait grève contre le plan d'économie préparé par le géant du nucléaire. Il prévoit notamment 3 à 4 000 suppressions de postes en France. 90% des employés ont suivi le mouvement selon les syndicats, 50 à 60 selon la direction. Un mouvement qui a eu lieu à la veille d'une réunion à l'Elysée sur la filière du nucléaire. D'autres suppressions de postes en vue dans l'entreprise de lingerie Chantel. La direction souhaite se séparer de son site de production de Lanester, près de Lorient, dans le Morbihan. 112 personnes y travaillent. Il retrouvera sa fille au tribunal. Jean-Marie Le Pen conteste en justice sa suspension du Front National en tant qu'adhérent. Le mois dernier, le cofondateur du parti avait été exclu après ses propos sur la Seconde Guerre mondiale. Il critique l'Assemblée Générale extraordinaire à venir pour lui enlever entre autres son statut de président d'honneur. L'audience devant la justice doit avoir lieu en fin de semaine prochaine. En attendant, c'est le retour des informés.
Merci Thomas Pontillon, nous au fil à Météo France.
France Info Météo avec Best Western. 300 hôtels de caractère, 3 et 4 étoiles partout en France. Plus d'infos sur bestwestern.fr.
Élodie Calac.
Belle amélioration sur le nord-ouest demain, toujours bien ensoleillé ailleurs. Entre la côte landaise, Poitou-Charentes, le nord-ouest, le bassin parisien et les frontières du nord, le réveil sera bien encombré avec quelques gouttes possibles. Ce sera un peu plus lumineux tout de même près de la Manche. Au fil des heures, ça va s'améliorer. Le soleil fera de belles apparitions. Il brillera franchement sur le littoral. Du sud-ouest vers le massif central, l'Alsace, les Alpes et la Méditerranée, le soleil va vite s'imposer, parfois un peu retardé par quelques grisailles au sud de la Garonne ou autour de la Méditerranée. L'après-midi, une petite averse ne sera pas exclue. Sur les Pyrénées, peut-être un petit coup de tonnerre sur le Mercantour. Vous aurez 17 degrés à Saint-Brieuc, 20 à Lille, 22 à Paris, Angers et Biarritz, 25 degrés à Nevers. Il fera 27 à Strasbourg, Limoges et Toulon, 30 degrés du côté de Lyon et Toulouse, jusqu'à 31 à Orange. La chaleur s'accentuera sous le soleil jeudi et vendredi. On attend jusqu'à 34-35 degrés dans le sud et dans l'est, 32 à 33 degrés en région parisienne.
Degas, un peintre impressionniste ? Au musée des impressionnismes de Giverny avec France Info. Quelle place Edgar Degas a-t-il occupé au sein du mouvement impressionniste? Pour y répondre, l'exposition met en scène près de 80 œuvres. Peintures, sculptures, pastels et dessins entraînent ainsi le visiteur aux sources de la modernité. Degas, un peintre impressionniste, jusqu'au 19 juillet au musée des impressionnismes de Giverny, en partenariat avec France Info.
Entrepreneur, dirigeant d'entreprise, salarié, on se croise tous rue de la formation. Retrouvez-nous sur le site ruedelaformation.org. La formation professionnelle, on s'en parle, on agit, on y gagne.
20h-21h, France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, donc jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, avec ce soir la première vice-présidente du Conseil Régional d'Île-de-France, Marie-Pierre de Hagonterie, Jonathan Boucher-Pétersen de Libération, François Dorcival de Valeurs Actuelles et Olivier de Lagarde de France Info. Avant de parler des migrants et des camps qui ont été donc délogés ce matin à Paris et à Calais, on va parler d'un revenant. Et oui, Thomas Thévenoud, les grandes vacances sont dans un peu plus d'un mois et il est de retour. Alors ce n'est pas qu'il nous manquait vraiment, mais il a été un des personnages les plus burlesques de cette année médiatique, avec son oubli de payer ses impôts et son excuse, aujourd'hui mythique dans le monde politique, « Je suis un phobique administratif ». Oui, Thomas Thévenoud, démissionnaire du gouvernement, 9 jours après avoir été nommé secrétaire d'État au commerce extérieur, démissionné en septembre, dont est toujours parlementaire, élu de la première circonscription de Saône-et-Loire, avait une fibre comique insoupçonnée. Aujourd'hui, il fait de nouveau parler de lui, car l'administration fiscale a décidé de porter plainte contre lui, une injustice qui pourrait en faire le personnage d'un spectacle de Robert Hossein, mais surtout un acharnement, selon Thomas Thévenoud.
Je considère que Bercy, sur ce dossier, fait preuve d'acharnement. Car j'ai payé ce que je devais.
Qui est responsable de cet acharnement, comme vous le dites ?
Mais je considère que c'est le gouvernement.
Le gouvernement.
Écoutez, Manuel Valls. C'est un dossier qui est évidemment politique. C'est un cas inédit dans l'histoire de la République où un parlementaire est poursuivi pour un retard de déclaration ou un retard de paiement d'impôts.
Voilà, Thomas Thévenoud, ce matin sur iTélé. François Orcival, justement dans Libération, ce matin, Thomas Thévenoud déclare qu'on se rachète une morale sur son dos. Est-ce qu'à votre avis, c'est une victime ?
Oui, Thomas Thévenoud. Ah, mais c'est ce qui est extraordinaire dans le cas de Thomas Thévenoud, c'est sa naïveté. C'est sa naïveté. Et au fond, on se dit, bah, effectivement, il ne payait pas ses impôts parce que, voilà, il était élu, il n'y avait pas de raison de payer ses impôts à l'heure, puisqu'il était perpétuellement en retard. Et donc là, il a remboursé ses impôts ainsi que ses pénalités. Et il est tout surpris qu'il y ait des poursuites. Tout surpris, parce que précisément, il est resté député. Et donc, on est tout de même frappé de cela, parce que le scandale a été quand même gigantesque l'année dernière. Il mettait en cause le crédit du gouvernement, de l'Assemblée, des députés, du monde politique, etc. Et qu'il y ait cette année des suites, mais il devrait regarder autour de lui. Il y en a pour lesquels, ça dure pendant 20 ans, les affaires judiciaires, pour se terminer parfois par des non-lieux.
Ouais. Et Jonathan Boucher-Peterson.
Non, j'ai l'impression que François Orcival a une expérience de la vie politique qui, une fois de plus, est supérieure à la mienne. Moi, je vois pas beaucoup de parallèles ou de précédents ou de... Enfin, je sais pas, on connaît les cas de Serge Dassault, Patrick Balkany, du sénateur Montesquieu. On parle de millions d'euros de fraude fiscale, d'enquête ouverte. Là, j'ai pas l'impression qu'on ait parlé d'un homme malhonnête, on parle d'un homme inconséquent.
Dont moi, j'ai dit naïf.
Non, je finis. Oui, dont on s'est tous gossé, parce que ça a l'air d'être tellement un raisonnement logique selon lequel, mais évidemment qu'il allait être poursuivi. Visiblement, ça surprend beaucoup de monde, voire à la haute autorité, ils sont un petit peu inquiets sur les fondements juridiques de cette plainte. Donc, évidemment, vous le dites, c'est une affaire politique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dès le départ, on peut même s'interroger sur qui était au courant de quoi, à quel moment, dans quelle mesure on découvre formellement l'inconséquence, là où la légèreté de Thomas Thévenoud, pour pas dire plus. Voilà, aujourd'hui, cette plainte, elle est tout sauf habituelle. Elle est tout sauf habituelle. Elle est visiblement fragile, d'après les experts qu'on a consultés. Voilà, de là, faire passer pour la victime, je ne sais pas. Orchestration politique, je crois que c'est le mot choisi pour éviter
exactement.
Complot. Voilà, orchestration politique. Chacun y met un peu ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a un cas particulier, Thomas Thévenoud, très clairement.
Marie-Pierre Lagontrie, orchestration politique, qu'est-ce que vous entendez par là ? Pour vous, il y a complot, il y aurait une volonté de nuire à Thomas Thévenoud de la part du gouvernement ?
Je suis de manière générale pas une adepte de la théorie du complot, mais c'est une affaire depuis aujourd'hui là qui me met assez mal à l'aise parce que effectivement je fais bien de lire Libé régulièrement tous les jours parce qu'en fait je suis assez d'accord avec ce que dit Jonathan Boucher-Peterson.
Ah, c'est incroyable.
Non, mais parce que ce qu'il a fait était grave. Premièrement, était inacceptable de par ses fonctions et apportait un choc. À la vie politique et au gouvernement, y compris dans le contexte dans lequel on était. Et puis parce que c'était, c'était un des nôtres. Je suis socialiste, c'est un camarade, etc. Je veux dire, c'était pas le gars, on s'attendait pas du tout à ça. Bref, ça a été un choc absolument terrible. Bon, ce type a eu sa vie démolie. Est-ce que 8 mois... Non mais attendez, je termine. Pourquoi 8 mois plus tard ? Ce qui me gêne, c'est le délai.
Oui.
Et ce qui me gêne, c'est la publicité à l'information. C'est-à-dire que qu'il soit poursuivi pénalement, ce n'est pas une obligation. Très bien, ça peut être fait, ok. Pourquoi 8 mois après, du coup, ça semble un peu compliqué à comprendre, et pourquoi le rendre public ? Du coup, ça alimente ses propos, qui est de dire, mais orchestration politique. Parce que je pense que c'est la publicité donnée qui fait qu'on
c'est
peut se demander
faire un symbole, en
ce
tout
que
cas.
Ça
sert. Voilà. Alors Olivier Delahaye, maintenant c'est devenu un symbole, Thomas Thévenoud.
Ouais, moi je suis très très surpris en vous entendant, parce que je pense que s'il y a un acharnement dans cette affaire, c'est quand même l'acharnement de Thomas Thévenoud à vouloir rester député. Je pense que il aurait quitté ce que la décence, que le début du commencement de la décence lui commanderait de faire. Il fallait qu'il démissionne. Point final. On n'en parlerait plus aujourd'hui.
Je ne comprends pas les deux sujets.
Je pense que ce qu'il a, c'est ce qu'il mérite. Un point final. Ce type fait un mal fou à la politique, fait un mal dingue au Parti Socialiste. Ce qui est même incroyable, c'est l'incapacité, pardon de vous le dire, vous n'êtes pas responsable, mais l'incapacité du Parti Socialiste à se débarrasser de Thomas Thévenoud. Mais bien sûr que si. Mais
attendez, on ne peut pas l'obliger à démissionner.
Ça peut être quoi ?
Je ne sais pas si vous avez la même connaissance de la politique que moi, mais si à un certain niveau de l'État, on prend son téléphone, on dit, écoute, c'est fini, s'il te plaît, tu es gentil, tu quittes l'Assemblée nationale.
C'est sûr, vous avez vu comme Guérini, ça a été efficace.
C'est impossible. Ben, alors, ouais. Voilà, il a été exclu du Parti Socialiste.
Oui, mais attendez, alors ensuite, on se renvoie, oui, mais il y a Balkany, il y a machin.
On se renvoie pas, on rappelle des faits.
Je ne fais pas, moi je ne fais pas de politique. Je n'ai ma carte dans aucun parti. Simplement.
On un peu de la mesure aux choses, 40 000, plusieurs millions.
Simplement.
Fraude,
malhonnêteté. Attendez.
Après, on peut tout balayer.
J'ai fini, c'est Olivier.
Non, mais attendez. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Ce type fait un mal dingue à la politique. Ensuite, on ne peut pas s'étonner que Marine Le Pen monte sondage après sondage.
C'est pas ça dont on parle.
On parle d'une plainte de la juge. À moins qu'on veuille mettre derrière cette plainte tout. Très bien, réhabilitation du pays.
Mais non, mais
c'est pas le sujet. On parle d'une procédure.
Non, mais attendez. Tout de même. Une plainte.
Personne ne répond à la question sur la publicité de l'affaire.
Oui.
Parce qu'en plus, il ne fallait pas en parler.
Non, mais
je dis simplement pourquoi.
Là, vous rêvez. Allez-y,
François, ça va être
bien. Tous les personnels politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, naturellement, c'est politique, donc c'est public. Alors, en revanche, être poursuivi ne signifie pas être condamné. Enfin, même être poursuivi au bout de 8 mois ou de 2 ans. Il y a combien d'hommes politiques qui sont poursuivis, dont les affaires se poursuivent justement, sans qu'il y ait de conclusion et de décision de justice.
Je reviens à ce que je disais au début, c'est plus intéressant de noter si on veut voir si cette décision est normale. Dans ces cas-là, on n'en fait pas un sujet. Si c'est juste la suite normale des choses, que ça surprend personne, visiblement ça surprend et ça fait parler. Moi, ce que je notais, c'est que c'est tous ceux qui ne le sont pas poursuivis. Qu'il y ait des suites normales parce que la justice doit passer, mais très bien, mais dans ces cas-là, traitement d'égalité pour tous. J'attends que les parlementaires qui sont poursuivis pour fraude fiscale sur des millions d'euros, vous pouvez lire Libé et beaucoup d'autres journaux pour bien comprendre le système Balkany, ou le système d'assaut,
qui doit poursuivre à la place de la justice.
Pas du tout, simplement, c'est pas notre rôle de pointer le fait que la justice, parfois, a des sévérités sélectives.
Je relirai mon livre.
Vous accusez le gouvernement de s'attaquer plus aux gens que
j'en ai. Je relirai Libé pour savoir ce que Libé a dit sur Éric Woerth. Alors, je relirai Libé.
Alors, vous êtes en mission, monsieur Dorcé.
Je vous recommande.
Vous êtes en mission un peu clientèle.
Attendez,
j'ai une seule lecture cet après-midi. Ouais. Je vous recommande de lire les 280 pages de la décision du tribunal de Bordeaux concernant l'affaire Bettencourt. Vous voulez le rejuger Éric Woerth.
Vous voulez le rejuger.
Attendez, on va pas rejuger toutes les affaires de la 5e République. Mais il y a juste une phrase qui m'a étonné dans l'interview de Libération de Thomas Thévenoud. C'est il a dit, donc il est indésirable partout, mais il affirme que le PS est venu chercher sa voix pour voter la loi Macron.
Ah oui.
Là, est-ce qu'on n'est pas dans le maringo politique total, justement, de dire on ne veut plus de toi, mais
alors,
quand même...
Oui, parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire, vous m'aviez fait perdre le fil de mes pensées. C'est que, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un peu une hypocrisie de la part du Parti Socialiste, qui n'avait aucun intérêt à ce qu'il démissionne?
Une hypocrisie en quoi?
Pas plus que Sylvie Andrieux, si vous voulez. Aujourd'hui,
il est exclu du Parti Socialiste.
Mais attendez, il continue à siéger, il continue à voter avec la gauche.
Ça s'appelle la démocratie, s'il n'y a que le peuple qui peut défaire ce que le peuple a fait, ça veut dire quelque chose.
Vous prenez le code électoral et vous verrez qu'il n'y a pas de moyen pour démettre un parlementaire.
Je le sais bien, je sais aussi que si le président de la République prend son téléphone, Thomas Thévenoud, il démissionne. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. S'il y a encore un petit peu d'autorité dans ce pays. Votre ami, le président de l'Assemblée nationale, fait pression sur lui en disant « Écoute, Thomas, t'es gentil, tu peux pas rester à ton poste. »
De la même façon que ça a été fait à l'époque.
Je pense que ça a été fait extrêmement mollement parce que les calculs ont été faits et que sans la voix de Thomas Thévenoud, sans la voix de Sylvie Andrieux, condamné...
Pas forcément, il dit qu'il a voté contre le projet de renseignement. Donc c'est dire que...
Condamné, le Parti Socialiste n'a plus la majorité... à l'Assemblée nationale. Alors bon, vous venez avec les radicaux de gauche, ça s'arrange. Mais c'est vrai que ça la fout mal.
On peut reprocher beaucoup de mots. Moi, j'ai eu l'impression. Après, moi, on a fait des émissions à l'époque de l'affaire Thévenoud. J'avais personne pour le défendre. J'ai pas l'impression qu'à l'époque, peut-être que vous aviez déjà un discours singulier pour noter le manque d'allant du gouvernement dans cette affaire. Moi, j'avais plutôt le sentiment que la tête avait été coupée nettement.
Ça, c'est une. Oui. Après, voilà. Je sais que c'est un coup de Manuel Valls.
Thévenoud pouvait démissionner, se soumettre à la réélection. Il aurait été réélu, point.
Allez, 20h45 sur France Info.
Sujet.
Les titres, Thomas Pontillon.
Encore un coup de tonnerre à la FIFA. Sepp Blatter démissionne de son poste de président 4 jours après avoir été réélu en pleine tempête à cause des soupçons de corruption autour de l'organisation. C'est une décision courageuse selon Michel Platini, le président de l'UEFA, qui avait déjà appelé la semaine dernière Sepp Blatter à démissionner. Un nouveau congrès aura lieu en fin d'année ou début 2016. Le prince Ali est déjà candidat. Joe Wilfried Tsonga en demi-finale de Roland-Garros. Le français est venu à bout du japonais Nishikori en 5-7. Tsonga retrouvera le Suisse Wawrinka qui a sorti Roger Federer cet après-midi. Une réunion demain à l'Elysée pour parler nucléaire. Aujourd'hui, un grand nombre de salariés d'Areva a débrayé alors que le groupe prévoit de supprimer 3 à 4 000 postes en France.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info avec ce soir la première vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France, Marie-Pierre de Hagonterie, Jonathan Boucher-Petersen de Libération, François Dorcival de Valeurs Actuelles et Olivier Delagarde de France Info. On va parler des migrants puisque ce matin, deux opérations de police ont délangé donc des camps de migrants, des camps de fortune installés à Paris et à Calais. Dans le Nord, ce sont 140 personnes qui ont été évacuées. Dans la capitale, ce sont 380 migrants installés dans des tentes sous le métro du boulevard de la Chapelle qui ont reçu la visite des forces de l'ordre. Alors que ce week-end, 5000 migrants ont été secourus en Méditerranée. Bruxelles réfléchit à un nouveau plan d'accueil. Les opérations de police ne sont pas dénoncées par les associations. Bien au contraire, elles les plébiscitent pour des questions humanitaires, comme le président de France Terre d'Asile, Pierre-Henri.
Ça fait 6 mois que je demande au pouvoir public d'agir et donc cette opération, elle est aujourd'hui la bienvenue. Bien sûr, nous ne réglerons pas toute la question migratoire à travers cette opération. C'est simplement une opération d'urgence qui était nécessaire et j'espère que dorénavant, nous saurons agir en prévention.
Voilà, Pierre-Henri de France Terre d'Asile. Mais Pierre Lagontry, c'est-à-dire que les associations changent un peu de mentalité sur ce sujet français.
Non, les associations, vous savez, elles ont toujours été très responsables sur tout ça. Et moi, je salue le courage de Pierre-Henri de s'exprimer de cette manière. Il faut savoir que boulevard de la Chapelle, donc il y avait 300 personnes. Oui. Les installations étaient terrifiantes. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vues. Donc ça a été débattu. On l'a voté d'ailleurs en Conseil de Paris, ce souhait qu'il y ait cette évacuation, parce que les gens survivaient dans des conditions absolument indignes et qu'il y avait évidemment des risques d'épidémie, de santé, etc., etc. Du coup, le fait d'avoir des associations aux côtés de l'opération d'évacuation fait qu'il y a les solutions de relogement d'une part, mais aussi elles ont accompagné, elles ont eu des entretiens avec les personnes évacuées pour savoir lesquelles pouvaient demander l'asile ou pas, etc., etc. Et donc du coup ça rend cette opération un peu moins brutale. Ça ne résout pas le problème, mais en tout cas, chapeau aux associations d'être dans un état d'esprit lucide sur la grande difficulté de ces personnes qui étaient encore une fois sous des tentes dans des conditions absolument invraisemblables.
Sous le métro. François Dorcival, justement, ces migrants, on en parle beaucoup, ça ne paraît pas concret quand on parle des chiffres, quand ils viennent de Méditerranée. Là, ils sont vraiment chez nous. On le voit à Calais, on le voit à Paris, on le voit ailleurs aussi en France. Pour vous, est-ce qu'il y a une solution, justement?
Pour le moment, il est certain qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas. Ou plutôt, comme vient de le dire Marie-Pierre de Lagontrie, ça ne résout pas le problème. Or, des évacuations de ce genre, elles se répètent naturellement. Elles se répètent de semaine en semaine, qu'elles soient médiatisées ou moins médiatisées, elles se répètent nécessairement. Mais on a là des abcès de fixation, notamment à Calais, qui remplacent ceux qui avaient précédé, etc. Et évidemment, cette question des migrants finit par s'appliquer à à constituer des abcès de fixation, parce qu'il faut les reloger, et les reloger décemment, ce qui se comprend à partir du moment où c'est l'État qui le fait. Mais dans ce cas, le problème devient immense, parce qu'il ne s'agit plus de 300 ici et de 140 là. Il s'agit de milliers, de dizaines de milliers.
Olivier Delagarde, justement sur ces interventions aujourd'hui de police, est-ce que finalement c'est toujours le contraste entre le côté humanitaire, le côté bâton?
Non, mais c'est un problème insoluble. De toute façon, on est très embarrassé pour en parler. On est forcément partagé entre la nécessité, l'absolue nécessité d'aider des gens qui sont en grande détresse, des enfants qui dorment par terre, des risques d'épidémie. Il faut faire quelque chose. Et puis, en même temps, tout le monde est d'accord pour dire faut faire attention, il faut pas créer d'appel d'air. Alors, évidemment, on se dit la bonne solution, ce serait si on pouvait tarir à la source tous ces migrants qui souhaitent simplement pouvoir vivre à peu près décemment. Ça veut dire l'Érythrée, ça veut dire la Syrie, ça veut dire l'Afrique noire et ailleurs. comment est-ce que c'est possible? Pour le moment, personne n'en sait rien. On est contraint finalement d'une politique un peu à la petite semaine, où on va apporter un petit peu d'aide d'un côté, essayer de...
Mais quand l'Europe propose des choses, tout le monde dit non. Donc il y a un moment...
Non, mais attendez, l'Europe propose des quotas. Elle propose des quotas. Mmh. Non, c'est se moquer du monde, cette histoire-là.
Et en puisque, quoi c'est se moquer
de toute
du
façon,
monde,
mais parce que les États par eux-mêmes ne fixent pas le droit d'asile en fonction des quotas. Enfin, vous n'allez pas me dire ça, etc. Mmh. Et évidemment, les pays refusent l'idée de proportion par proportion par rapport à quoi ? On vient de gagner 26 000 chômeurs. On a 5 millions et quelques de sans-emploi. Et on va accumuler des sans-emploi, des clandestins, des migrants, etc. Tout ça n'a pas de sens.
Jonathan Boucher-Petersen.
Non, mais on parlait de schizophrénie tout à l'heure, sur d'autres sujets. Je pense que elle est patente, parce que c'est les mêmes qui étaient émus il y a quelques semaines, qui disaient que chacun doit prendre sa part. On parlait pas de quotas, mais on parlait de répartition. Voilà, il y avait quand même cette idée que il y avait un goulot d'étranglement à Lampedusa, qu'il y avait des pays qui étaient géographiquement plus éloignés et que au-delà de questions d'Europe, d'institutions, mais simplement de solidarité entre pays qu'on a un avenir commun, chacun prenait sa part. Je vous entendais faire des évocations entre plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Voilà, on est 62 millions en France. Je pense
On est 500 millions en Europe. Donc 2 millions de migrants,
c'est pas sur 2 millions de migrants. L'essentiel des migrations, elles sont
sud-sud. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire.
Ce que je dis, c'est pas ce que vous reformulez. C'est toujours plus simple. Mais je vous dis l'essentiel des migrations, parce que là, on a l'impression qu'on est en train de se protéger d'un péril qui viendrait envahir la France. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui risquent leur vie pour venir essayer d'en vivre une meilleure ici. Si on n'a aucune solution, moi, je trouve qu'on n'a pas tellement de raisons d'être fiers de nous collectivement.
On va revenir juste après ça.
C'est du jugement moral.
Bureau d'enregistrement des rêves, bonjour.
Euromillion My Million, venez avec vos rêves. Ce vendredi, super jackpot Euromillion de 100 millions d'euros.
Oh, c'est beaucoup ça.
À partager au rang 1, voire règlement.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
FDJ. 20h53 sur France Info. Les titres, Thomas Pontillon.
4 jours après avoir été élu, Sepp Blatter annonce sa démission à la tête de la FIFA, engluée dans des affaires de corruption. Un nouveau congrès aura lieu en fin d'année ou début 2016. En attendant, le Suisse reste en poste. Le prince Ali, lui, est déjà candidat. Joe Wilfried Tsonga en demi-finale de Roland-Garros. Le français s'est qualifié difficilement face au japonais Nishikori en 5-7. Tsonga avait pourtant rapidement mené dans cette rencontre, marquée par la chute d'une plaque de fer en tribune qui a blessé légèrement 3 spectateurs. Il retrouvera Wawrinka en demi-finale. Dans le reste de l'actualité, 90% des salariés d'Areva en grève, selon les syndicats. Ils ont débrayé aujourd'hui contre le projet de suppression de 3 à 4 000 postes en France. Une réunion sur le nucléaire doit avoir lieu demain à l'Élysée. À la Réunion, 5 personnes en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place une filière d'acheminement de djihadistes vers la Syrie. 4 hommes de moins de 25 ans et une femme de 62 ans ont été interpellés. La crise au FN continue. Jean-Marie Le Pen assigne en justice le Front National. Il conteste sa suspension en tant qu'adhérent après ses propos sur la Seconde Guerre mondiale. Une assemblée générale extraordinaire convoquée par sa fille doit lui enlever son titre de président d'honneur.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, les 5 dernières minutes, on parle justement des migrants. Olivier de la Garisco, vous pensez que les migrants, ça va devenir un thème de la présidentielle quand on voit qu'aujourd'hui Marine Le Pen, dès qu'elle peut faire une déclaration dessus, elle parle d'expulsion permanente. Vous pensez que ça va devenir un thème?
Écoutez, j'espère pas, parce que je pense que c'est des sujets qui sont complexes, sensibles, extrêmement passionnels, et je pense que c'est le type même de mauvais sujet pour une élection présidentielle. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Jonathan Boucher-Petersen. C'est vrai, quoi. On vous entend, on ne peut être que d'accord avec vous. Simplement, le problème, il est un tout petit peu plus compliqué que cela, parce que...
On dit toujours ça, ouais. Ça, c'est souvent...
Si juste une fois, vous pouvez parler sans vous prendre la parole.
On vous le retournera, ça, Jonathan.
C'est-à-dire,
on vous le retournera.
Non, mais, il y a une belle alliance.
C'est le problème. C'est qu'il ne s'agit pas de quelques dizaines de milliers de personnes.
Visiblement, si.
Attendez.
Vous dites des choses.
Allez-y, Olivier.
Combien, en termes de migration, c'est des problèmes de flux. Et c'est de savoir combien il y a de personnes qui, effectivement, si on commence à entrouvrir les portes, seraient capables de venir s'engouffrer. On le sait bien, et je le répète, évidemment qu'il faut venir en aide à ces gens qui sont en train de mourir sous nos yeux. On ne peut pas ne pas leur tendre la main. Ensuite, le problème de la politique et de la politique migratoire, c'est d'être un tout petit peu responsable. Alors, c'est facile de faire des grands éditos, évidemment, dans Libération, par les payeurs, c'est pas chez vous qu'ils vont venir s'installer, etc.
Non, c'est chez vous, le grand spécialiste de l'immigration, je découvre ça.
Je dis juste que les choses...
Est-ce qu'on peut juste savoir très
précisément.
Un petit peu plus compliqué non, que cela.
De combien de personnes
précisément,
parle-t-on alors
on parle de 0,3% de la population française.
Non, mais je vous parle de la population. Non, mais attendez, on ne parle pas de la population française. Si, on parle de la population mondiale, là, aujourd'hui.
Vous ne voulez pas qu'on vous coupe.
Marie-Pierre, allez-y, Marie-Pierre.
Donc, simplement, il faut savoir que la France, il ne faut pas vivre sur des idées anciennes ou sur des photographies anciennes de ce qu'est l'immigration. Aujourd'hui, la France est le pays de l'OCDE qui accueille le moins d'immigrés. D'accord ? Chaque année. Ensuite, ça correspond, le flux qui arrive chaque année, c'est à peu près 0,3% de la population française. Donc, la question, elle est de savoir si, et c'est pour ça que je suis très choquée, pas surprise, mais choquée de ce que dit François Dorcival sur la question des quotas, pas des quotas, de la répartition, etc., à l'époque de ce qui s'est passé, des drames de la Méditerranée. Il faut nécessairement, si on considère que ces personnes doivent être accueillies, ne pas laisser deux pays recevoir l'intégralité de ces personnes. Et moi, je considère, et au Parti Socialiste, les positions ont été un petit peu évolutives, que nous devons effectivement manifester une solidarité européenne. Je considère que c'est le sujet sur lequel l'Europe devrait se grandir.
Et quand vous entendez quand même... le président de la République et le Premier ministre aujourd'hui qui sont contre les quotas ?
Alors, avec des termes qui sont quand même un petit peu complexes. Mmh. Moi, j'ai pas compris tout de suite. Il a fallu que ça monte au cerveau. C'est-à-dire que non au quota, mais oui à la répartition équitable. Donc on va dire qu'en gros, c'est non. Voilà, mais, oui. Mais ça peut être oui.
C'est plus simple quand on n'est pas au gouvernement, c'est ce genre de questions.
Non, voilà. Moi je suis... Non,
mais, c'est fondé sur un problème qui est celui du droit d'asile.
Il y a deux choses différentes, et vous le savez très bien, c'est-à-dire que les personnes arrivent, certaines d'entre elles ont droit à l'asile. Vous savez très bien que la règle aujourd'hui...
La moitié sur ce que j'appelle.
Seul le pays d'accueil, enfin la norme aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez demander l'asile que dans votre pays d'accueil. Je considère, parce qu'on est là chacun pour donner son avis, je considère qu'il faut répartir l'effort, qu'il n'y a pas de raison que l'Italie soit le pays qui reçoive l'intégralité de ces personnes, et que oui, tout le monde doit faire un effort, y compris la France. Vous noterez quand même que, par exemple, l'Allemagne ne dit pas non, d'autres reçoivent assez peu d'étrangers dans cette situation. Je considère que ça fait partie de notre devoir en termes d'humanité.
François Archival, vous vouliez répondre,
et après j'entends Boucher Bédersen. Humanitaire.
Non, d'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité, monsieur Dursival?
Bon, d'accord. Alors, acceptons le devoir d'humanité. Le devoir d'humanité à l'égard de ceux qui traversent la Méditerranée et de ceux qui sont les naufragés. J'ajoute quand même que les deux pays les plus concernés, vous dites en effet la Grèce et l'Italie, je rappelle que la Grèce a expliqué de manière, à travers son ministre de la Défense d'ailleurs, que puisque la circulation des hommes était de toute façon libre à l'intérieur de l'Europe, ils allaient nous envoyer des dizaines de milliers de migrants si nous n'acceptions pas leurs conditions pour rétablir leur situation. Le ministre de la Défense, dont on connaît le nom et le parti.
Voilà, qui est conservateur.
Tout ça, c'est de la liberté de circulation dont nous parlons en Europe. Vous me dites le pays d'accueil, bien sûr, mais ensuite les hommes et les femmes, ils sont libres de circuler en Europe. Donc nous prenons notre part.
Voilà, il faut juste conclure, Jonathan Boucher-Persen. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que, par exemple, on voit Calais, quand on voit la réaction de l'Angleterre, du Royaume-Uni, qui durcit de plus en plus, est-ce que finalement c'est possible de régler ce problème s'il n'y a pas une politique globale?
Non, une politique globale, mais c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Après, on peut juste baisser les bras et dire c'est tellement facile quand on n'est pas politique, dénoncer soi-disant les humanistes en disant moi aussi j'ai un petit cœur qui bat. Je vous dirai pas à qui ça me fait penser, mais je trouve ça un peu stérile comme façon de débattre. Mais après, visiblement, moi j'attends toujours une réponse de votre part.
La jungle de Calais, ça fait 20 ans.
Moi j'aimerais
les gouvernements succèdent les uns après les autres. Tout le monde dit on va résoudre le problème. Mais évidemment, libération, on claque dans les doigts et les choses.
Mais arrêtez un peu l'investissement stérile parce que j'aimerais bien qu'il y ait des infos dans la bouche d'un journaliste de France Info, ça serait mieux.
Mais il y a toujours des informations, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que nous sommes une chaîne d'information continue, et je suis sûr qu'il y en a à France Info, comme il y en a à Libération, puisque voilà, vous nous écoutez en permanence et vous nous prenez des informations. Donc, Jonathan Boucher-Pédersen, d'ailleurs, quelle information on pourra retrouver demain matin en une de Libération?
Ça me va très bien, c'est de l'air, la une.
De l'air, très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue sur France Info, merci. Voilà. Et en tout cas, donc, la une de Valeurs Actuelles, on ne peut plus rien dire, donc enquête sur les chiens de garde de la pensée unique. Merci beaucoup à Marie-Pierre de la Gontrie, première vice-présidente du Conseil régional de France, et Olivier de Lagarde, donc, un monde d'idées à retrouver demain avec
un philosophe, Bernard Stiegler, un philosophe qui garde ses nerfs.
Et voilà, toute la journée sur France Info. Et la soirée continue avec Julien Mogue. Bonsoir.